Je dis que les légions romaines dévasteront nos terres et réduiront à néant nos coutumes et nos croyances.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série « Connaissons-nous vraiment les Gaulois ?» Question que nous nous posons avec l'historien et archéologue Dominique Garcia. Dans l'épisode précédent, nous avons tenté de définir ce qu'on entend par Gaulois. Qui ils sont, sur quel territoire ils vivent et depuis combien de temps? Aujourd'hui, les mœurs des Gaulois.
Imaginez des cheveux jusque-là et des moustaches énormes et une puanteur incroyable. Ils ne se lavent jamais et ne mangent que de la viande crue. Mais en revanche, ils ont une coutume admirable. Ils règlent leurs différends politiques par des combats à mort.
Les auteurs grecs ont tous été frappés par le physique des Gaulois, très exotique à leurs yeux sans doute. « Tous les Gaulois sont de grande taille », écrit sans hésiter Diodore de Sicile, historien grec, contemporain de Jules César et qui n'a évidemment jamais mis les pieds en Gaule. Il ajoute « Ils ont la peau extrêmement blanche, leurs cheveux sont naturellement roux et ils usent même d'artifices pour fortifier cette couleur. Ils étirent leurs cheveux au sommet de la tête et sur les tempes, de sorte qu'ils ont l'air de satyres. Les nobles Gaulois portent des moustaches qui leur couvrent la bouche. » Et là, détail peu ragoûtant, il arrive que lorsqu'ils mangent, leur viande s'embarrasse dans leurs moustaches et lorsqu'ils boivent, elles leur servent de tamis pour filtrer leur boisson. Pour prendre leur repas, ils se couchent par terre sur des couvertures de peau de loup ou de chien. À côté d'eux, dans de grands feux garnis de broches, ils font cuire de gros quartiers de viande. Souvent, leurs propos de table font naître des sujets de querelle et ils ne se font point une affaire de s'appeler en duel. Revient souvent, en effet, dans les textes anciens, l'image du Gaulois bagarreur, violent, dur au combat, mais pas forcément très malin. Le géographe Strabon, un grec d'Asie mineure, contemporain de César, ne cache pas son mépris pour les Gaulois, de vraies brutes épaisses. Tous les peuples appartenant à cette race, dit-il, sont fous de guerre, irritables et prompts à en venir aux mains, mais ils sont aussi simples et point méchants. À la moindre excitation, ils se rassemblent en foule et courent au combat, mais cela ouvertement, de sorte que la ruse et l'habileté militaire viennent aisément à bout de leurs efforts. Pauvres Gaulois.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
La manière dont ces guerriers s'habillent surprend aussi Diodore de Sicile. Ils portent des tuniques peintes de toutes sortes de couleurs et des hauts de chausses qu'ils appellent braques. Par-dessus leur tunique, ils mettent une casaque d'une étoffe rayée ou à petits carreaux. Tiens, rayée, là, on visualise bien la culotte d'Obélix. Mais il arrive aussi, s'étonne Diodore de Sicile, qu'ils se jettent dans le combat en n'ayant qu'une ceinture autour du corps et le reste entièrement nu. Quant à leurs armes, outre l'armure et le bouclier, leurs casques, dit-il, sont surmontés par de grands panaches pour en imposer à ceux qui les regardent. Certains font mettre sur leurs casques de vraies cornes d'animaux, d'autres des têtes d'oiseaux ou de bêtes à quatre pattes. Strabon se moque lui aussi, je cite, de la fanfaronnade des Gaulois, de leur passion pour la parure. Ils se couvrent de bijoux d'or, portent des colliers autour du cou, des anneaux d'or autour des bras et des poignets. Mais ne vous fiez pas à cette apparente légèreté. Strabon raconte en effet, au sortir du combat, ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu'ils ont tués et les rapportent pour les clouer en trophée aux portes de leur maison. Autre option, après les avoir frottés d'huile de cèdre, ils les conservent soigneusement dans des caisses. Et Strabon ajoute, les Romains ont réussi pourtant à les faire renoncer à cette coutume barbare. Nous voilà soulagés. Dominique Garcia, à lire ces auteurs anciens, on a l'impression que les Gaulois sont de vrais brutes et qu'ils passent leur temps à se battre.
Alors, les textes sont partiels et ils sont partiaux. Les auteurs anciens ne faisaient pas que de l'histoire, ils faisaient aussi un petit peu de propagande. Et ensuite, ils défendaient une civilisation, la leur. Et par définition, les espaces qu'ils allaient piller, qu'ils allaient conquérir, il ne fallait pas que les vendent comme des gens qui étaient civilisés, raffinés. Donc ça, il y a un petit élément déjà d'action avec un regard de l'historien extérieur qui va aborder un espace nouveau et qui va essayer de le conquérir. C'est le cas notamment chez César. Il envoie ses documents au Sénat pour avoir plus d'argent et plus d'hommes, il ne peut pas envoyer des petits courriers en disant que ce sont des gens sympathiques et raffinés et qui n'ont pas envie de se battre. Donc, il accentue peut-être cet élément-là. Ensuite, il y a des éléments d'exotisme qui sont notés dans le texte que vous évoquez, le fait qu'il soit une peau plus claire peut-être que les méditerranéens grecs ou latins, c'est assez logique, les coupes de cheveux, et puis, bon, ce qui est pointé, les fameuses brailles, les pantalons, mais qui ont eu un certain succès partout dans le monde, donc les Gaulois nous ont laissé quelques petits détails de ce type-là, mais qui effectivement pouvaient choquer ou pouvaient être notés par les populations. La viande aussi n'est pas totalement faux, et ils en mangeaient beaucoup, et puis ils étaient dans une culture du rôti, et non pas dans celle du frit, de l'huile d'olive, de la Méditerranée. Donc ces petits changements, en triant un petit peu, les sources écrites nous livrent ce tableau de la Gaule, sans doute ramassé, sans doute unifié, et sans doute accentué. Il y a forcément des éléments à tirer, bien entendu, mais pas tout.
Quelles sont les activités des Gaulois quand ils ne font pas la guerre, justement ?
Les Gaulois, ces tribus gauloises étaient organisées en cités. À l'intérieur de la cité, on rencontrait ce qu'on appelle des pagus. Le pagus, c'est ce qui a donné le canton, c'est ce qui a donné en français le mot pays. Mais qui a donné aussi le mot paysan, qui a donné le mot paysage, qui a donné le mot page,
oui,
même en français.
La page de papier.
La page de papier, etc. Oui. Donc vous voyez, si on prend un autre élément plus culturel, à ce moment-là, nos Gaulois ne sont pas si guerriers que ça, ils rêvent de paix. Et donc, c'est quelque chose d'un peu différent. Voilà, ce côté du Gaulois belliqueux, c'est la fin de la période et le moment où il est en conflit.
Ces Gaulois sont aussi des agriculteurs, ils ne font pas que d'aller chasser des sangliers dans la forêt. Il y a des vraies cultures et il y a aussi des villes.
D'autant plus que si les Grecs et si les Romains se sont intéressés à cet espace, c'est parce qu'il y avait du potentiel économique et que ce potentiel économique, il était connu grâce à l'exploitation qu'en faisaient les Gaulois. Il y avait de l'or dans le Limousin, il y avait de l'étain dans le Morvan, il y avait du blé à peu près partout. Et donc, en fin de compte, nos Grecs et nos Romains venaient dans ces régions avec une vision coloniale pour en récupérer les biens. Et donc, le quotidien des Gaulois, c'était effectivement d'exploiter ce terroir qui avait un potentiel extrêmement important.
Qu'est-ce qu'ils mangent, les Gaulois ? Qu'est-ce qu'ils boivent ?
Pour la boisson, c'est un élément important parce que si la vigne est connue depuis la préhistoire en tant qu'élément végétal, si les populations de ce qui est aujourd'hui la France et qui était la Gaule ont pu récupérer des raisins, en revanche, les secrets de la vinification n'étaient pas connus par ces populations locales. Et donc, quand les Grecs, quand les Romains vont venir, ils vont venir avec un produit manufacturé, industriel, le vin, qui n'est pas connu par les populations gauloises et qui va permettre d'établir des contacts commerciaux, voire d'établir des liens culturels, parce que le vin va être rapidement consommé et en grande quantité par nos populations gauloises.
Et comment les Gaulois sont-ils organisés politiquement ? Est-ce qu'ils ont des rois, des chefs ?
Alors, on a deux types d'organisations. On a des rois, le fameux Rix, qui traîne à la fin de Vercingétorix. Oui. Et on a aussi des oligarchies, des groupes qui prennent le pouvoir, qui sont organisés avec un sénat et avec un chef qui s'appelle le Vergobré, qui est élu pendant un an, qui est donc le chef de la cité, qui n'a pas le droit de quitter la cité, et qui est responsable et qui réunit le Sénat. Donc une organisation par cité, à l'intérieur de la cité par canton, et ensuite des variations, les Arvernes avaient des rois, d'autres pouvaient avoir un système d'oligarchie.
Est-ce qu'on sait quelque chose du rôle des femmes dans la société gauloise ?
Dans les conflits, on dit que c'est des femmes qui intervenaient pour marquer la fin du conflit. Donc les hommes se battaient, et ensuite, quand on estimait que ça avait un peu duré, il y avait des femmes qui disaient « maintenant, stop, on arrête ». Donc elles avaient un rôle important de médiateur. Et ensuite, l'archéologie a révélé que certaines femmes avaient un pouvoir hors du commun. C'est notamment le cas à Vix, dans le Châtillonnais, où on a découvert une tombe somptueuse d'une dame qui est appelée la princesse de Vix, et qui devait régner sur un état, une cité-état, relativement importante.
Est-ce qu'il y a une monogamie ou une polygamie chez les Gaulois ?
On n'en a pas de témoignages de ce type-là, et donc on avait une organisation familiale classique qui ne choquait pas le monde méditerranéen.
Des esclaves ?
Des esclaves étaient là, bien entendu, mais là aussi, ça n'en faisait pas des plus barbares que dans d'autres espaces euro-méditerranéens.
Est-ce qu'on peut dire que les Gaulois avaient une conscience nationale, la conscience d'appartenir à une communauté gauloise ?
Non, Non. Ça, ils l'ont sans doute en réaction aux invasions et en réaction aux conflits tardifs. Donc, il n'y avait pas cette unité. C'est d'ailleurs ce qui leur a manqué. Ils n'étaient pas organisés en nation, ils n'étaient pas organisés en État. C'est les Romains qui ont introduit des limites administratives précises et qui les ont figées dans des espaces.
Merci Dominique Garcia. Dans le prochain épisode, nous parlerons des druides, des croyances et de la culture des Gaulois.